Content d'être avec vous ce matin encore et de toujours content de revenir ici et de vous revoir. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble, on sert ensemble. Je sers avec un ministère qui s'appelle C2C, le collectif C2C, qui accompagne l'implantation de nouvelles églises. Et puis, donc les dernières années ont été un défi avec la pandémie, mais on fait ça depuis une douzaine d'années à peu près au travers du Canada. Moi, je m'occupe plus particulièrement du Québec. Il y a quand même une vingtaine d'églises, 22, 23 églises en implantation au Québec. Donc, Dieu continue à faire son œuvre, mais les deux dernières années ont été beaucoup plus à de l'accompagnement et très relationnel plutôt que du développement, et on peut comprendre pourquoi. Mais merci de votre soutien, parce que l'Église ici soutient le ministère de C2C. On est content toujours de revenir ici et de vous voir. Donc, ce matin, le Seigneur m'a donné quelque chose de particulier. Je vais essayer d'approcher ça un petit peu. Et on va prier ensemble, si vous voulez. Père, merci du privilège qu'on a de s'approcher de toi, de se mettre à ton écoute. Merci pour ce temps de louange qu'on a eu où on a pu juste ouvrir nos cœurs à exprimer notre reconnaissance pour toi, ta grandeur, ta puissance, ta beauté. Ma prière maintenant, Seigneur, que tu puisses parler, continuer de parler à nos cœurs, nous interpeller, nous faire voir ce que tu veux nous faire voir, nous faire entendre ce que tu veux nous faire entendre. Viens toucher nos cœurs, Seigneur, chacune des personnes ici. Que ce qui peut être un obstacle à ce qu'on t'entende puisse être enlevé et que nos cœurs puissent être disposés à te reconnaître. Merci, Jésus. Amen. Il y a quelque temps, j'ai vu un post sur Facebook passer. C'est intéressant. Le post soulevait la valeur d'une bouteille d'eau. Vous avez peut-être vu ça passer. Ça disait, au Costco, une petite bouteille d'eau et 25 cents. La même bouteille d'eau à l'épicerie, elle va être autour de 50 cents. Dans les dépanneurs, elle va être entre 2 et 3 piastres. La même bouteille d'eau au restaurant, elle va être entre 3 et 4 piastres. À l'aéroport, elle va se vendre entre 4 et 5 piastres et peut-être plus que ça encore. La même bouteille d'eau, mais sa valeur change selon l'endroit. Puis le post sur Facebook disait, si un endroit ne te traite pas à ta juste valeur, change d'endroit. Où ta vraie valeur va être reconnue. Où tu vas être valorisé. Où tu vas te sentir bien. C'est intéressant comme pensée. C'est d'ailleurs la pensée populaire autour de nous autres. Hein? Que ta valeur est définie par l'environnement, par la situation. On en a parlé tout à l'heure, c'était partagé un peu dans un des partages. Ta valeur est déterminée par les autres, ce que les autres pensent, par la façon dont tu t'habilles. Elle va déterminer ta valeur par ta beauté, par ce que tu possèdes ou par tout ce que tu fais, tu produis, tes performances, ce que tu accomplis. Mais si ta valeur est déterminée par ça, on risque toujours de se sentir menacé lorsque ma beauté change, lorsque mon environnement change, quand je ne peux plus performer. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous suggérer un autre endroit pour définir notre valeur. Un endroit où ma valeur ne dépendra pas de toutes ces choses-là. Et je souhaite vraiment nous emmener à voir et saisir ce que Dieu dit de toi, de moi, de nous autres. Et j'aimerais vous emmener à réaliser à quel point vous avez une grande valeur pour Dieu et combien de voir et de saisir profondément la valeur, l'amour que Dieu a pour nous peut changer tout radicalement dans nos vies. Dieu, à travers toute la Bible, exprime des sentiments favorables par rapport à l'être humain. Il va dire à son peuple, en Ésaïe, il va dire, « Tu as de la valeur à mes yeux. Je tiens beaucoup à toi et je t'aime. » Il l'exprime déjà. On est à 700 ans avant Jésus-Christ. Tu as une valeur pour moi. Et on peut le croire. Mais parfois, on l'oublie. Et parfois même, on en doute. Pour ça, c'est important de se le rappeler et de plonger nos pensées, nos cœurs dans qu'est-ce que Dieu dit vraiment. Tu as de la valeur pour moi et je t'aime. Dans Éphésiens, il va dire un autre texte comme celui-là ici. Il va dire que Christ habite dans votre cœur par la foi. Enracinez-vous solidement. Enracinez solidement fondé. Attendez, je vais le lire ici parce que je ne le vois pas tout là-bas. Enracinez et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple de Dieu combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de reconnaître de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Que Dieu habite dans vos cœurs par la foi, c'est quelque chose qu'on choisit de croire. On choisit d'adhérer. quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur, la longueur. C'est-à-dire, il n'y a pas d'endroit que l'amour de Dieu ne peut pas aller rejoindre. Qu'on soit ainsi rempli de toute la plénitude, c'est-à-dire c'est comblé. Nos cœurs sont comblés, complets. Et il y a notre fameux Jean 3,16 dans le Nouveau Testament aussi, qui dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin qu'on croit en lui, qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu, avoir cette vie éternelle. » Donc, il n'y a personne ici qui n'a pas une valeur et qui n'est pas profondément aimé et une valeur inestimable pour Dieu. Personne ici. Il n'y a personne que vous allez croiser le regard, que vous allez rencontrer, qui n'est pas profondément aimé de Dieu. Même ceux qui vous ont peut-être dévalorisé, maltraité. Personne. Et Dieu seul l'a montré de plusieurs manières combien on avait cette grande valeur-là. Et ce matin, j'aimerais ça en regarder une de ces manières-là. Vous savez, parfois, on voit des propriétés impressionnantes, des bâtiments, des maisons, des palais. Et quand on regarde les palais des rois de ce monde, ils reflètent le succès de ces gens-là, la puissance, l'influence, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent, le pouvoir qu'ils ont. Je vous en ai mis quelques-uns à l'écran ici. Vous voyez ici, on a la maison du roi de Belgique à Bruxelles. C'est grand, c'est majestueux. Ça représente qui il est. Quelqu'un de solide, c'est ce qu'il veut communiquer. Le château de Pierrefonds, Bardi, au nord de la France. Non, c'est le château de Chambord, c'est là, ailleurs. Un autre, la maison de ce roi-là. Un autre ici, là, ça, c'est le château de Pierrefonds. Palais d'Espagne. Celui des tsars de Russie. Le palais royal du roi de Thaïlande à Bangkok. Sa maison, son palais. Château de Versailles. Regardez l'intérieur. On veut communiquer la richesse, la puissance, le pouvoir, l'influence de ces grands rois-là. Qu'est-ce qu'il y en est de Dieu? Qui, lui, est appelé le roi des rois. Celui qui est au-dessus de tous les autres. Dans quelle sorte de maison Dieu habiterait? Pour voir ça, parce que la Bible nous en parle, il faut remonter à des milliers d'années avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël avait Dieu comme roi. Et il voulait un endroit pour rencontrer Dieu, un lieu physique qu'il pourrait toucher, qu'il pourrait voir comme les autres peuples autour. Il voulait être comme les autres. On veut une place où tu vas habiter, où on va pouvoir voir, toucher, te rencontrer. Et Dieu a dit oui à leur demande. Puis il leur a décrit comment cette maison-là devait être construite. Souvenez-vous, le peuple, à ce moment-là, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, était nomade. Il se promenait de lieu en lieu. Donc cette maison-là devait être démontable et remontable, déplaçable. On appelait cette maison-là la tente de la rencontre. Un lieu où l'être humain pouvait rencontrer Dieu. On retrouve la description de ça dans Exode 25 à 28. Et ça commence par Dieu qui appelle le monde à donner. On va recueillir auprès de tous ceux qui vont offrir de bon cœur toutes sortes de richesses. Et on les a ici. Voici en quoi consisteront les dons. De l'or, de l'argent, du bronze, la laine teinte en violette, du rouge ou cramoisi, lin fin, la laine de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge, du cuir solide, du bois d'acacia, de l'huile pour l'éclairage, de l'essence aromatique pour l'huile d'onction et le parfum à brûler, des pierres de coralline et d'autres pierres précieuses pour l'éphod et le pectoral du grand prêtre. Les Israélites me confectionneront une tente sacrée pour que je puisse habiter au milieu d'eux. Vous fabriquerez la tente et tous les objets sacrés conformément au plan et au modèle que je vais vous montrer. Donc, Dieu dit, « OK, je vais vous laisser me construire une maison, mais c'est moi qui vais vous dicter comment la faire. » Il donne des directives précises. Et j'ai cherché des photos, mais ils n'avaient pas, ils n'ont pas pris. Mais j'ai trouvé des images qui représentaient un peu l'attente de la rencontre à ce moment-là. Et puis, regardez la description qu'il donne dans ces textes-là d'Exode. Il va y avoir des artisans qui vont confectionner des bandes d'étoffes de toutes sortes de couleurs. Et ils vont être avec des chérubins brodés et fixés à 50 crochets d'or. On va construire des cadres pour soutenir les toiles et les contours. Et on recouvert d'or avec des anneaux d'or aussi. Et des traverses, des socles pour tenir ça. 96 socles en argent. des chérubins brodés dans les rideaux. Tout est avec des agrafes d'or, des colonnes en bois d'acacia. Donc, les colonnes, comme on voit, les cinq colonnes, en bois d'acacia, qui est un bois noble. Mais on va les recouvrir d'or en plus, sur des socles d'argent. Il y avait les accessoires aussi. Le coffre, le fameux coffre de l'Alliance, en bois d'acacia recouvert d'or, l'intérieur puis l'extérieur, avec des bordures en or. Les barres pour la soutenir vont être en or aussi. Des chérubins en or martelé, une table en bois d'acacia recouvert d'or, de la vaisselle nécessaire puis les accessoires d'or peu. Juste les accessoires puis le porte-lampe, il devait prendre 30 kilos d'or pour construire ça. Juste quelques accessoires. 30 kilos d'or. Savez-vous le prix de l'or en ce moment au gramme? C'est énorme. Et là, juste pour quelques accessoires, on ne parle pas des colonnes et de tout ça, là. Puis il y a les habits. Les habits que les prêtres devaient porter. Oups, oui, ça devrait être là. Les prêtres devaient porter un pectoral avec 12 pierres précieuses. Est-ce qu'on peut le mettre à l'écran? Il n'apparaît plus. Et il y avait 12 pierres précieuses et tout ça était entouré d'or aussi. C'est quand même impressionnant, là. Est-ce qu'il y en a qui ont fait du camping ici déjà? Oui. Si vous avez été dans des campings, je ne suis pas sûr qu'on ait souvent vu des tentes comme ça. C'est une tente, là. Mais ça devait refléter l'aspect unique de Dieu. La grandeur puis la puissance de Dieu. Son côté exclusif, unique. Tout ça pour une tente, quand même. Vous rendez-vous compte comment ça devait être majestueux? On a une autre place où on nous parle d'une maison de Dieu. Plus tard, David était roi, le roi David, et le peuple n'était plus nomade. Le peuple s'était installé à Jérusalem. Et il avait commencé à construire des maisons fixes en terre, en pierre, en cèdre, en bois. Et puis David, à un moment donné, il s'est dit, j'habite... Ah, il n'y apparaît plus. Donc le projecteur est à l'eau. Mais il dit, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. L'arche de Dieu, c'est l'arche d'alliance où Dieu descendait dans le lieu saint d'une partie de la tente de la rencontre. Les prêtres allaient rencontrer Dieu là et l'arche était là dans laquelle il avait mis les tables de la loi. Et il dit, moi j'habite dans une maison solide là et puis Dieu habiterait dans une tente. Il dit, ça se peut pas, je peux pas laisser ça comme ça. Et alors ils ont commencé des plans, David, et ramassé des accessoires, des matériaux pour construire cette maison-là. Mais c'est son fils Salomon qui allait la construire plus tard. Et Salomon a pris sept années pour la construire. Et encore là, on a la description dans un roi. C'est écrit, après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon a revêtu tout l'intérieur, du plancher jusqu'au plafond, en cèdre, en planche de cèdre. Le cèdre représentait l'abondance, les cèdres du Liban, hein, avec des sculptures de coloquinte, ça c'est un fruit, puis des fleurs épanouies qui représentent l'aboutissement, l'abondance encore là. Il a fait faire un autel en bois de cèdre, puis il l'a recouvert d'or. Puis là, il a recouvert toute la maison, qu'ils nous disent, du bas jusqu'en haut, l'intérieur et l'extérieur, d'or. Des ailes des chérubins avec les ailes déployées, des palmes recouvertes d'or, les battants étaient en or, les colonnes du temple en bois noble aussi, en bois d'acacia recouvert d'or aussi. C'était une œuvre d'or, A-R-T, mais une œuvre d'or aussi, O-R. Tout ça pour créer un environnement qui représente qui est Dieu. Qui est Dieu? La tente de la rencontre et le temple de Jérusalem nous démontrent les endroits où Dieu est digne de vivre. L'environnement où les êtres humains désignés pourront rencontrer Dieu. Les endroits de toute beauté. Les matériaux les plus purs, les plus prestigieux, les plus nobles. Tout ça pour la maison de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a une autre place qui nous parle encore de l'environnement de où Dieu vit. Et c'est la description que Jean nous fait de la Nouvelle Jérusalem. Il nous parle que devant le trône, il y avait une mer. Ah, ça c'est le temple de Jérusalem. Merci. Et devant le trône, on est dans la Jérusalem céleste, la maison de Dieu plus tard, comment voit Dieu la voit, et qui représente aussi l'environnement où ce que Dieu vit est digne de régner. Là, il nous parle de la muraille qui est construite en jaspe, mais la ville elle-même était d'or pur, aussi clair que du verre. On a ça dans Apocalypse 21. Les fondations de la muraille de la ville étaient faites de toutes sortes de pierres précieuses. Et là, regardez ça. Il y avait du saphir. Ça, c'est la fondation, là. Du saphir, du jasme, du saphir, de l'agate, de l'émeraude, de l'onyx, la sardoine, la chrysolite, le béryl, le topaz, la chrysoprasme. Je ne sais pas si je les aime toutes, le topaz, chrysoprasme, l'hyacinthe. Et pas Saint-Hyacinthe, là, c'est une pierre, celle-là. Là. Et je n'ai pas eu souvent ces pierres-là dans mes poches, hein, fait que les noms, là. Et l'améthyste. Ah oui, on le voit bien, là. Ça, la fondation, ce que j'en vois, la fondation de la ville, la ville est en or, mais la fondation, c'est toutes ces pierres précieuses-là. Ce que Jean nous décrit. Et je veux m'en aller quelque part avec ça, là. C'est plus qu'aucun roi n'a jamais eu. Les pierres les plus précieuses, les métaux les plus prestigieux, les matériaux les plus nobles, les produits les plus recherchés. Parce que Dieu est toujours plus. Dieu est toujours plus. Souvenez-vous, Moïse devant Pharaon. Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple et rencontrer Pharaon. Il lui dit, « Prends ta perche, ton bâton, jette-le à terre, il va se transformer en serpent. » Moïse s'en va voir Pharaon, il jette son serpent à terre, son bâton à terre, il se change en serpent. Et Pharaon fait venir ses magiciens, ils prennent leur bâton, ils le jettent à terre, se transforment en serpent aussi. Mais le serpent du bâton de Moïse, de Dieu, a englouti les autres serpents. Parce que Dieu est plus, encore plus. Jésus marchait sur la terre, il a guéri un aveugle né de naissance, ça ne s'était jamais vu. Les gens disent, personne n'enseigne comme lui, personne n'a fait ce qu'il a fait, personne n'a jamais guéri un aveugle de naissance, parce que Dieu est plus, encore plus. Jésus est appelé le roi des rois, celui qui est au-dessus de toutes les autres, celui qui est plus que les autres. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui est vainqueur. Dieu est plus. Dieu, c'est plus de bonté, plus de compassion, plus d'amour, plus de puissance, plus de tout. Tout ce que tu cherches pour ta vie, tous ces endroits que tu cherches pour ta valeur, pour ton estime, pour ton espoir, Dieu va le faire encore mieux. Parce que Dieu est plus. Ta meilleure solution, c'est Dieu. Parce que Dieu est plus que tout ce que tu peux imaginer, est plus puissant que tout, est au-dessus de tout, est digne de tout. Il a le droit à tous les honneurs, les louanges. Dieu vit dans ces environnements-là, incroyables, parce que ça représente qui est Dieu. Il est au-dessus de tout, les grandes maisons qu'on a vues, les grands palais qu'on a vus. Le sien est encore plus grand, plus gros, plus fort, parce qu'il est au-dessus de tout. Et pourtant, lui, qui était de condition divine, ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Ce Dieu tout-puissant, qui est au-dessus de tout, qui a tout pouvoir, qui a toute richesse, qui vit dans les endroits les plus merveilleux, a décidé, a été prêt à tout quitter pour venir ici, pour vivre comme l'un de nous. Il était prêt à vivre avec les limites d'un être humain, avec nos limites, comme un serviteur. Il était prêt à aller jusqu'au bout, à la croix. Il a choisi de quitter tous ces endroits prestigieux pour venir ici pour toi, pour moi, pour te rencontrer. Toi. Il a passé par le même chemin que vous et moi. Pas pour naître dans une maternité aseptisée, mais pour naître dans une étable. Comme ça. C'est une photo prise au Moyen-Orient. Souvent, on a des belles crèches sous nos sapins de Noël, toutes belles, toutes jolies. Mais ça ressemblait probablement à l'endroit où Jésus est né. Jésus était prêt à renoncer à tout pour venir te rejoindre, te rencontrer. Qui ici serait prêt à se dépouiller de tout, à renoncer à tous nos conforts pour le bien de ceux qui ne veulent rien savoir de lui, qu'il rejette? Moi, je ne le ferai pas. Mais lui, il l'a fait. Parce qu'il savait que je n'étais pas capable de le faire. Ça, c'est Noël qu'on célèbre. C'est Dieu qui vient vers nous, pour nous. C'est Dieu qui se dépouille pour que toi et moi, on puisse être enrichis. Pour toi, moi, il est venu dans un endroit misérable. Puis pour toi et moi, il est allé jusqu'à la croix. Et ça, c'est Pâques. Pour qu'on puisse être restauré. Pour pas qu'on ait à payer, mais que lui a payé. Pour qu'on soit restauré, qu'on puisse goûter à cette vie avec lui. Pour que nos cœurs puissent finalement être comblés, remplis. Et c'est incroyable. Ce qu'il a fait à la croix nous montre jusqu'où Dieu est prêt à aller pour que tu puisses le rencontrer, que tu puisses vivre cette relation avec lui, cette relation pour laquelle tu existes, pour laquelle tu as été créé. Par sa résurrection, il nous montre qu'il a la puissance de faire ce qu'il dit. Il a la capacité de le faire. Tu as de la valeur à ce point-là pour lui. Voyez-vous jusqu'où Dieu est prêt à aller? J'ai voulu dresser une image de ces places-là que la Bible nous décrit dans l'environnement que Dieu vit. La tente de la rencontre, le temple, des endroits prestigieux, nobles, riches, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, qui est incroyable. Puis il vient ici, comme un serviteur, pour te rencontrer. Il est prêt à aller jusque-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est prêt à aller encore plus loin que ça. Un Corinthien nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple, la maison de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Non seulement Dieu a tout quitté, ce qui avait été plus prestigieux pour venir marcher et mourir parmi nous, mais maintenant, il nous dit qu'il veut venir habiter en toi. Lorsqu'on choisit de mettre notre confiance en Jésus, qu'on reconnaît que moi, je n'ai pas ce qu'il faut, que j'ai besoin, que je ne m'en sortirai pas, et que je mets ma confiance en Dieu et je comprends que Jésus est la solution, il vient en moi par son esprit, il fait de moi sa maison. Sa maison est en toi maintenant. Tu es maintenant la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est plus une tente, n'est plus un temple. C'est toi et moi. C'est ton cœur. Et là, pour moi, il y a un clash. Mon cœur. Ce Dieu qui est digne de vivre dans les endroits les plus belles, les plus riches, les plus prestigieuses, choisit de venir vivre dans mon cœur. Dans cet endroit-là que si tout était mis en lumière, j'aurais probablement à rougir. Dans cet endroit-là qui est parfois très beau, mais aussi trop souvent noir et sombre, nos cœurs. Dieu, Jésus qui mérite d'être dans ces endroits les plus belles, vient vivre et choisit de venir vivre dans mon cœur. C'est incohérent. Il y a un contraste qui ne marche pas. Mais vous savez pourquoi il a fait ça? Par amour. Parce qu'il te voit. Il te voit. Il te connaît. Et ce qu'il voit en toi, c'est cette personne qu'il a voulu, qu'il a désiré, qu'il veut rencontrer. Il aime cette personne qu'il voit en toi, plus que tout, plus que toute richesse, plus que toute émeraude, puis après. En venant en toi, il te montre la valeur et l'importance que tu as pour lui. Une valeur inestimable. Peu importe ton passé, peu importe ton présent. Tout ça pour que tu puisses vivre et le rencontrer et goûter à sa présence. Mais vois aussi la profondeur de ton cœur. Ce que personne ici peut voir, il le voit. Tous ces endroits où tu te sens misérable, où tu souffres, il veut être là, près de toi, parce qu'il sait que la guérison, la transformation est possible. Il n'y a aucun endroit dans les profondeurs de ton cœur que l'amour de Dieu, la puissance de Dieu ne peut pas venir toucher. C'est la prière de Paul dans Éphésiens, qu'on puisse comprendre à quel point est grande et qu'on puisse saisir la profondeur, la hauteur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu. Il a été prêt à laisser derrière lui tout ce qui, à nos yeux, a une grande richesse, parce qu'il y a une richesse encore plus grande en toi. Est-ce que ça vous rappelle la parabole que cet homme qui trouve une perle dans un champ, puis il vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là avec la perle précieuse qui est dedans? Cette parabole-là nous rappelle l'Évangile, que quelqu'un qui découvre l'Évangile, il voit tellement que cette mort et résurrection de Jésus-Christ, l'Évangile, mort et résurrection de Jésus-Christ, qui nous réconcilie, qui nous restaure dans notre relation avec Dieu, qui nous permet d'être entrés en relation avec Dieu, et la richesse la plus grande, la perle la plus grande, on est prêt à tout laisser côté, ce en quoi on mettait nos espoirs, pour mettre notre espoir là-dedans. C'est ce qu'il nous appelle à faire quand on découvre la beauté de ce que Jésus-Christ a fait. Mais c'est ce que Dieu a été prêt à faire aussi, laisser tout derrière, parce qu'il a vu en toi une beauté encore plus grande. Et qui était venu et était prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, pour que tu puisses goûter à cette paix, à cette richesse, à sa présence. Dieu est encore plus. Il fait encore mieux. Tous les endroits, ce en qui ou en quoi tu pourrais mettre ton espoir, pour qu'est-ce qui va arriver ce soir, demain, après-demain, l'année prochaine. Il voit à ton cœur l'endroit où tu cherches pour combler ce manque d'espérance sans jamais y arriver réellement. Il était prêt à aller jusqu'au bout et c'est ici qu'il veut venir vivre. Vous savez, quand je regarde ça puis je pense à tout ça, je sens que je ne mérite tellement pas cet amour-là. Je ne mérite pas tout ce qu'il a fait pour moi, de tout quitter pour venir marcher ici, venir vivre dans mon cœur. Je ne sais pas si vous vous sentez comme ça, mais je ne suis pas digne de ça. Je ne mérite pas ça. Peut-être que vous vous sentez comme ça, et si vous vous sentez comme ça, vous avez raison. Parce que ni vous, ni moi, on mérite ça. Je ne mérite pas cette faveur-là. Vous non plus. Ce que vous et moi, on mérite, c'est d'être rejetés, abandonnés, à cause du rejet qu'on a fait nous-mêmes. Mon choix de ne pas suivre Dieu, mais même confier dans mes propres espérances, dans mes propres ressources, dans mes moyens, dans mes performances, dans mes capacités. Toutes les fois que je choisis mes solutions au lieu de lui faire confiance, je contribue à alimenter ce qui amène la souffrance dans ce monde-là. Mais Dieu a choisi de t'aimer et de m'aimer malgré tout. Et lui n'abandonne pas. Il n'abandonne jamais. Ça s'appelle la grâce. Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Dieu qui est prêt à tout, t'invite à le suivre. À considérer en quoi tu mets ton espoir en ce moment. Dans les situations de la vie. Je vais inviter Louis-René à s'approcher. Alors que je conclue ici. Jésus, le roi des rois, était prêt à subir la condamnation, le rejet pour que toi et moi n'ayons pas à le vivre. Ça reflète qui il est. Ça nous parle de sa grandeur, de son amour, de sa générosité. Dieu veut venir en toi, mais il veut toute la place. Et qu'est-ce qu'il prend? Arrêtez-vous un instant. Okay? Juste arrêtez-vous ici, là. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu aujourd'hui dans ta vie? En quoi tu mets ton espoir? Quelle est cette chose dans laquelle tu mets ta confiance qui empêche Dieu d'agir pleinement? Quelle est cette chose que tu tiens, à laquelle tu t'agrippes, qui nourrit un espoir? Mais Dieu est encore plus que cette chose. Puis il t'invite à lâcher prise sur cette chose pour voir qui il est, comprendre la profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur de son amour, de cette grâce. Si tu veux savoir s'il y a des choses dans ta vie que tu mets ton espoir ailleurs, regarde ta vie, tes comportements, tes inquiétudes. Ça peut t'aider à discerner, est-ce qu'il y a quelque chose où je ne mets pas mon espoir en Christ? Quand on met notre espoir en Christ, le fruit que ça produit, c'est le fruit de son esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la douceur, la fidélité. Et quand on ne met pas notre espoir en Christ, c'est d'autres choses qui montent. C'est la haine, la jalousie, la colère, les conflits, l'inquiétude, la honte, des choses semblables qu'il nous dit. Si c'est ça qui remonte, c'est que probablement tu mets ton espoir, tes attentes en quelque chose d'autre que Jésus-Christ. Parce que lui, ce qu'il produit, c'est la paix, la joie, la bonté, l'amour. Et ce matin, je t'invite à lâcher prise. C'est l'occasion de se rappeler. Parce qu'on oublie. C'est l'occasion de sonder nos cœurs. C'est l'occasion de réaffirmer à Dieu, « Seigneur, viens dans ma vie. » Parce que Dieu est plus encore que tous ces endroits où tu peux mettre ton espoir, ton espérance. On va prier ensemble. Seigneur, tu connais chacune des personnes ici. Tu sais avec nos défis, nos tensions, nos difficultés. Tu vois. Seigneur, tu comprends nos cœurs. Tu comprends ces inquiétudes, ces souffrances qu'on vit, mais tu nous accueilles. Tu nous dis, laisse-moi ta place. Laisse-moi la place. Laisse-moi prendre la place. Mets ta confiance en moi. Ton espoir en moi. On a vu ce matin que Dieu, Jésus, est plus grand que tout. Il veut nous le faire comprendre. Seigneur, prends la place qui te revient. Merci, Jésus, d'être qui tu es. Merci de vivre en nous maintenant. Ces endroits misérables, belles parfois, ces endroits qui sont parfois très beaux, mais misérables trop souvent. Merci de venir restaurer et guérir, Seigneur, ce qui a besoin d'être restauré et guéri. Merci, Jésus. Prends toute la place, Seigneur. Amen.